en contexte islamique. Nous accueillons le professeur Harkoun et le professeur Sorouche. Et donc la règle du jeu est toujours la même, monsieur Harkoun, quand vous voulez, pour une vingtaine de minutes.
Très bien, merci. Mesdames, messieurs, après tout ce qui a été dit depuis hier, au sujet de cette question, vous sentez tous, je pense, combien il est difficile d'insérer cette question dans le contexte islamique, surtout le contexte islamique aujourd'hui. En effet, dans ce monde musulman, qui s'étend, vous le savez, de l'Indonésie jusqu'au Maroc et de l'Asie centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, nous rencontrons tellement de voix, tellement de peuples, de cultures, et à l'intérieur de chaque société, chaque nation, nous rencontrons également des groupes socioculturels très divers, de ramener cette diversité à une seule qualification, l'islam. C'est précisément ce que nous faisons, hélas, depuis une trentaine d'années. Nous mettons sous le nom islam toutes sortes d'expressions des sociétés qui ne sont prises en charge ni historiquement, ni culturellement, ni encore moins anthropologiquement, et nous fonctionnons avec un certain nombre de représentations elles-mêmes très abstraites et très réduites de l'islam lui-même, qui, il faut le rappeler, est d'abord une religion, mais aussi une tradition de pensée, elle-même plurielle, avec plusieurs voix intellectuelles qui se sont manifestées au cours de l'histoire et qui mériteraient d'être considérées comme telles et qui ne le sont pas. Voilà pourquoi j'ai essayé de gagner du temps ce matin dans mon intervention, parce que je savais que le temps sera court pour dire tout ce qu'il faudrait dire sur cette diversité, en soulevant le problème de la stratégie d'approche que nous avons adoptée pour ce colloque. En effet, nous sommes partis hier avec la problématique bien connue, bien installée, dans le parcours historique occidental de la pensée. Et immédiatement, nous avons rencontré, bien sûr, la raison des Lumières, avec ses apports positifs, encore une fois qu'il ne s'agit pas d'ignorer ni de minimiser, mais aussi avec les difficultés qu'elle a créées, précisément pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, dans les conflits que nous vivons, au sujet de cette question, qui sommes-nous donc? Car les conséquences historiques de ce qui s'est passé en Europe à partir du XVIIIe siècle, c'est l'élimination pratiquement qui aboutit à ce que Nietzsche nous a décrit sous le nom de mort de Dieu, l'élimination de la voie principale de réalisation de la condition humaine pratiquement dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. C'est la dimension religieuse des sociétés. Cette dimension religieuse, pour des raisons justement de pouvoir, de prise de pouvoir par la raison. La raison qui veut s'autonomiser par rapport aux données religieuses, aux données révélées, a abouti à une construction de l'espace public où la dimension religieuse a été totalement mise de côté. Et je n'en veux pour preuve que tous les discours qui se sont succédés à cette tribune depuis hier matin. Jusqu'à présent, on n'a pratiquement pas pris en charge intellectuellement la dimension religieuse dans toutes les cultures et les sociétés de l'interrogation « Quelle est la part des religions dans la construction du sujet humain ?» Et à partir du sujet humain construit par les religions, quelle est la part de l'enseignement des religions et des cultures développées en rapport avec les religions pour construire des identités collectives. C'est une immense question. Et vous voyez bien qu'on n'en a pas parlé. Voilà pourquoi, lorsque nous en venons à la question de l'islam, nous butons précisément contre cette élimination. Et on se demande, je me suis demandé depuis hier matin, comment donc vais-je insérer mon propos dans cet ensemble de postulats, cet ensemble de principes, cet ensemble de fonctionnement de la pensée qui sont basés eux-mêmes en Europe sur une élimination historique d'autre chose qui concerne l'Europe elle-même. C'est l'élimination de la pensée comme telle, qui n'est pas nécessairement religieuse. Tout ce qui s'est développé dans le contexte islamique depuis le 7e siècle jusqu'au 13e siècle est éliminé de notre pratique académique, de notre pratique de pensée. Et il n'y a qu'à voir justement la façon dont nous avons fonctionné philosophiquement, comment nous sommes passés. Moi j'ai entendu parler de Platon, j'ai entendu parler d'Aristote, puis on a entendu parler de Kant, beaucoup de Kant, on a entendu parler de Hume, on a entendu parler de Machiavel. La coupure, la rupture. Et une rupture, une coupure tellement institutionnalisée qu'elle est devenue l'obstacle principal aujourd'hui pour penser au sens le plus fort, au sens critique, mais aussi au sens de prise en charge intellectuelle de tout ce qui s'est passé, pour penser les problèmes de ce qui s'affirme devant nous du côté islamique sous le nom de fondamentalisme. Mais le fondamentalisme est une expression très récente, très conjoncturelle de l'islam. Car l'islam a plusieurs possibilités de réponse au phénomène, d'abord à la question qui sommes-nous, mais à travers la question qui sommes-nous, à la saisie de l'histoire, à la façon de se situer par rapport à l'histoire. Et parmi ces réponses, il faut que j'aille vite, parmi ces réponses que nous pouvons relever à l'intérieur de la tradition islamique, pour essayer de construire le sujet humain dans le contexte islamique, outre la réponse actuelle, encore une fois fondamentaliste, qui est une réaction et non pas une émergence de l'intérieur des sociétés. C'est une réaction précisément au fonctionnement historique de la modernité issue des Lumières, mais d'une modernité telle qu'elle a été transportée dans les sociétés musulmanes depuis le 19e siècle. C'est un problème d'histoire énorme qui n'est pas examiné. Il est énorme. Et on le met de côté, comme tout le reste. À part donc cette réaction que nous décrivons de la façon que vous savez, que les politologues décrivent de la façon que vous savez, il y a eu, avant elle, la réaction de ce que nous appelons les réformistes salafis, c'est-à-dire orthodoxes, traditionnels, depuis le 19e siècle. C'est le grand courant qui part de Mohamed Abdo et de Jamaluddin Afrani, et qui continue à s'exprimer pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence des luttes de libération coloniale. Et c'est un grand moment de la pensée, je n'ai pas le temps évidemment d'en parler, mais c'est une réponse à la question « qui sommes-nous ?» déjà, puisque déjà les défis, les premiers défis de la modernité telle qu'elle fonctionnait en Europe au XIXe siècle, se faisaient déjà sentir dans un grand nombre de sociétés, en particulier les sociétés proches de l'Europe, c'est-à-dire les sociétés, au fond, qui vivent dans l'ère méditerranéenne et qui sont par conséquent très proches de toute cette histoire. Il y a aussi la réponse libérale des intellectuels libéraux qui font partie de tout un courant intellectuel, lui-même qui est parti dès le début du 19e siècle. C'est une autre voie, parfois proche de la première, c'est-à-dire la voie réformiste, mais parfois très différente, qui regardait davantage du côté de la raison des Lumières, justement, essayant d'adapter les Lumières au contexte nouveau des sociétés musulmanes, et essayons d'adapter les lumières avec une très grande, je dirais, naïveté, une sorte de fraîcheur de la raison. Pendant que le discours nationaliste qui viendra ultérieurement n'existait pas encore avec la force qu'il prendra après la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc là une autre ligne qui se trouverait recouverte, comme la première d'ailleurs, par la voie actuelle hypertrophiée. Hypertrophiée. Je dirais par la littérature politologique en connivence avec les médias qui répercutent la littérature politologique parce que c'est la littérature qui se rapproche le plus du discours des médias et qui peut être lue de la façon la plus facile, tandis que aller consulter des historiens, ça demande un peu trop d'efforts, et je vois mon ami Leboeuf qui sourit à cette évocation parce que nous souffrons de la même chose. Et puis il y a une quatrième voie qui se manifeste précisément aujourd'hui face à celle du fondamentalisme. Je n'aime pas ce mot, je suis obligé de l'employer puisqu'il nous est imposé. Mais il faudrait l'analyser, bien sûr, pour lui donner tout son sens et toute sa portée. Il y a du côté des sociétés musulmanes, dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, il y a des laïcistes qu'il faut bien distinguer de la laïcité. Ce sont des laïcistes qui n'ont pratiquement pas de contact historique eux-mêmes avec cette dimension historique de la pensée islamique que j'évoquais tout à l'heure. Ils ne savent pas ce qui s'est passé historiquement dans la pensée en contexte islamique du 7e au 13e siècle. Je disais tout à l'heure que c'est négligé en Occident, que ça n'est pas étudié, mais malheureusement ça n'est pas davantage étudié, ça n'est pas davantage connu à l'intérieur des sociétés musulmanes et de la pratique académique des sociétés musulmanes encore. Et ça pose un immense problème pour faire face justement aujourd'hui à la question « qui sommes-nous dans ces sociétés-là » De sorte que nous avons un usage apologétique et idéologique, c'est mêlé, entre la pensée laïciste qui utilise une référence apologétique à un âge d'or qui est évoqué de façon mythique parce qu'il n'y a pas de connaissance historique de cet âge d'or, et qui est évoqué sans critique historique, parce que la critique historique essentielle qu'il faut faire lorsque les musulmans, les intellectuels musulmans laïcistes, ou les intellectuels laïcistes en contexte musulman, c'est plus juste. Lorsqu'ils font référence à cet âge d'or, ils ne font pas la critique essentielle pour dire que toute la pensée qui s'est affirmée en contexte islamique du 7e au 13e siècle se trouve enfermée dans ce que les historiens appellent l'espace médiéval au sens épistémologique. Espace médiéval qui a été complètement remis en question précisément à partir du 18e siècle par le phénomène de la modernité. Il y a là une reprise du Moyen-Âge, mais je laisse le maître en parler tout à l'heure, une reprise du Moyen-Âge, mais de tout le Moyen-Âge. Pas d'un Moyen-Âge occidental d'un côté et d'un Moyen-Âge islamique de l'autre. Voilà une fragmentation de la question « qui sommes-nous ?» Eh bien, qui sommes-nous ? La pensée telle qu'elle s'est développée dans l'espace méditerranéen, dans tout l'espace méditerranéen, le sud et le nord, l'est et l'ouest, du 7e au 13e siècle, fait partie intégrante de ce qui se passe dans ce que nous nommons le Moyen-Âge chrétien européen. Et cela, nous attendons encore beaucoup d'historiens pour l'établir et remembrer intellectuellement, culturellement, théologiquement aussi, par une histoire appropriée des religions, pour remembrer cet espace fracassé, à la fois par des systèmes théologiques concurrents, juifs, chrétiens et musulmans, fonctionnant tous les trois, comme des systèmes culturels et des systèmes intellectuels d'exclusion réciproque pendant des siècles. Et vous voyez, c'est une définition programmatique pour l'historien que je donne là. Ce n'est pas une définition polémique. C'est pour reprendre justement dans nos universités et nos recherches l'histoire des théologies juives, chrétiennes et musulmanes pour les déconstruire dans leur mécanisme intellectuel d'exclusion réciproque et nous permettre de comprendre comment aujourd'hui nos mentalités, nos manières de réfléchir, nos manières de mode d'aborder des questions aussi essentielles que celles-ci, sont encore commandées par des ruptures, des clivages intellectuels liés à ces systèmes que nous avons hérités du lointain Moyen-Âge et que, hélas, nous n'avons pas suffisamment étudiés. Voilà donc un certain nombre de remarques rapides sur la façon d'aborder la question « Qui sommes-nous, encore une fois, dans le vaste contexte musulman ?» Voilà pourquoi j'ai utilisé l'expression « contexte musulman » et non pas « islam ». Je n'ai pas dit la question « Qui sommes-nous en islam ?» Parce que je veux écarter ce terme qui est tellement chargé aujourd'hui, de tellement de connotations négatives, qu'il est devenu impossible à utiliser dans une analyse tant soit peu critique. Et aussi l'expression « contexte islamique » ouvre les possibilités à des voix, et quand je dis des voix, ce sont, je le répète, des voix de peuple, des voix de groupes ethnoculturels qui existent dans ce vaste espace, rien que l'Indonésie, et en soi un continent tellement diversifié, tellement riche de langues et de cultures, qu'il n'est absolument pas possible d'utiliser le terme islam pour décrire une telle diversité si nous voulons réellement prendre en charge sérieusement la question « qui sommes-nous ?». Voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas possible d'ouvrir un tel colloque uniquement en l'abordant avec les définitions héritées de la pensée des Lumières. Car cette pensée des Lumières, ce n'est pas une accusation, c'est une constatation d'ordre historique, ne pouvait pas penser les cultures qu'aujourd'hui nous commençons seulement à essayer de penser par la voie anthropologique et non pas par la voie philosophique, par la voie anthropologique et par la voie d'une anthropologie historique, c'est-à-dire une problématique anthropologique transportée dans des périodes que nous n'avons pas encore lues avec les catégories de l'anthropologie moderne qui changent complètement le paysage intellectuel et qui changent complètement l'approche de la question qui nous est posée. Vous voyez par conséquent que si nous prenons ce chemin, eh bien, c'est une véritable révolution intellectuelle que nous opérerons pour reposer la question « qui sommes-nous ?» sur des niveaux d'analyse, des niveaux de critique et des niveaux de prospective pour dire qui nous voulons être dans les 10 prochaines années, par exemple. C'est ainsi qu'il faut traiter la question, d'une manière à la fois régressive et progressive, et non pas d'une manière régressive statique, qui nous met à l'intérieur d'un paradigme à la fois historique et intellectuel, où nous ne pouvons que répéter des notions parfois utiles, mais souvent dangereuses, et qui sont inopérantes pour répondre, en tout cas de manière prospective, à la question qui nous voulons historiquement être, à la fois par des décisions politiques, bien sûr, mais il n'y aura pas de décision politique valable, viable, si au préalable, nous n'avons pas changé notre manière de réfléchir, notre manière d'aborder les religions, et si nous n'avons pas rétabli les libertés d'expression qui permettraient aux cultures religieuses, je ne dis pas aux croyances religieuses, c'est un acquis, ça, de la raison des Lumières, je l'ai dit ce matin, car quand je développe ces idées-là, tout de suite, c'est Mohamed qui parle, le voilà parti dans son islam, il va nous faire une leçon sur l'anti-laïcisme, l'anti-lumière, l'anti-machin, etc. Et oui, j'ai reçu ça, malgré toutes les précautions que je prends, pour essayer d'être clair et de dire qu'il faut aller vers quelque chose d'autre, d'autre intellectuellement, d'autre culturellement et par conséquent d'autre politiquement. Et cela, encore une fois, je ne pense pas, je dois m'arrêter ? Sans doute, oui. Oui, bon, je m'arrête, j'obéis. Et je sais que mon ami, je suis heureux d'être à cette tribune avec mon ami Sourouche, qui mène un combat courageux, très proche de ce que j'essaye de faire dans l'autre partie de la planète. Et c'est un combat difficile, vous le savez.
Je vous remercie pour ce rappel et pour cet appel. Professeur Sorouch.
Thank you very much. The title of the paper I'm going to present is Vague Ideas, Vague Identities. I hope that it will be complementary to what Professor Arkun presented here, though in a much softer voice than Professor Arkun's. Now, the first bit of the paper will be rather abstract, and I will provide the theoretical ground for answering the question, who are we? And then I will apply it to the cultural identity of Iran in the next bit of the paper. One, in reply to the question, who are we, I would like to begin with a poem by the great mystic Iranian poet of 13th century, Jalaluddin Rumi, who goes deep into the heart of the matter when he says, since awareness is the inmost nature and the essence of the soul, the more aware one is, the more spirited is he. His idea clearly and simply is this: man is one with what he knows, and the more he knows, the loftiest entity will he possess. The identification of the knower and the known, expressed by Rumi in a poetical way, received a more serious philosophical treatment in the hands of Sadruddin Shirazi, the well-known Iranian metaphysician of 17th century, whose celebrated doctrine of the unity of the intellect, the intelligent, and the intelligible has been the object of many learned disputes among Iranian scholars since. Put more technically, he divided knowledge into two kinds, namely, knowledge by presence and knowledge by representation. Trees, tables, and books are not present in the mind, so to speak. They have rather to be represented by mental images and the like, while mental images themselves, as well as propositions, feelings such as pain, sorrow, pleasure, etc., and on top of all these, our self-knowledge are present in the mind. Therefore, they are not to be represented again. Else, we will face an infinite regress. In other words, our knowledge of ourselves and our mental states is direct, whereas that of the external bodies and processes is indirect. Gilbert Ryle's apt analysis of knowing how, as opposed to knowing that, is a case in point. All knowing how is knowledge by presence, since, first of all, it cannot be reduced to knowing that, i.e. propositional knowledge. Secondly, it cannot presuppose any other piece of knowing how. And thirdly, while it admits of degrees of perfection, it will not lend itself to categories of truth and falsity. The last point is of utmost importance. Knowledge by presence is the very existence of something. It is a fact. It is no proposition. Hence, the incapability of the application of labels true and false. It is exactly in this sense, and for this very reason, that Shirazi identifies the intelligible and the intelligent, claiming explicitly, and I am quoting, that an ignorant man, insofar as...
De commencer le travail avec le quart d'heure de retard que nous avons admis comme tolérable. Merci d'être à l'heure. Après la journée assez épuisante mais très riche en propos d'hier, je n'ai aucun doute que nous pouvons nous attendre à une autre journée aussi riche. Et comme je vous avais indiqué hier, nous aimerions demander à nos représentants, enfin, représentants, adhérents, spécialistes, comme vous voulez, des différentes grande religion mondiale, d'assumer la présidence à tour de rôle. C'est ainsi que nous allons demander à Miss Mukherjee de bien vouloir présider cette demi-journée qui sera consacrée, vous le savez bien, à l'islam. Mais je m'empresse de vous dire aussi que, en tant qu'organisateur, je m'efforcerai évidemment d'orienter ensemble avec les présidents et avec vous, mesdames et messieurs, d'orienter nos délibérations vers le but général de notre colloque. Faisons, comme il est dans l'esprit de notre réunion, le travail ensemble. C'est ainsi que je passe la parole à Miss Mukherjee et que je laisse à ses soins de guider cette matinée ensemble avec moi où nécessaire.
Thank you. I think it's a good coincidence that I am here to chair this meeting, because Islam and Hinduism has lived together for a long time. In spite of our little bit checkered history, we have managed to live together in peace and friendship for many centuries now, and I am happy to be able to chair this meeting.
Merci, madame. Mesdames, messieurs, comme je l'ai dit dans ma courte intervention au début de ce colloque, il est très difficile de présenter la situation de l'islam aujourd'hui quant à la réalisation des droits de l'homme dans le monde. En effet, l'islam, vous le savez, représente une très grande diversité dans le monde. Il est difficile de tenir compte de ce qui se passe dans de multiples sociétés qui se réclament de cette religion. Pour être équitable, il faudrait en effet parler de la situation de l'islam dans chacune de ces sociétés. Et je me sens gêné de devoir parler de l'islam en général, alors qu'il y a tant de diversité. Ceci est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'islam a une grande actualité, précisément dans le monde occidental. Et comme vous le savez, il y a toute une imagerie de l'islam qui habite la conscience occidentale actuelle. Et dès que l'on parle de l'islam, on pense immédiatement à des thèmes comme la guerre sainte, comme l'intolérance, comme la violence, comme l'irrespect précisément de ces droits de l'homme qui sont le sujet de notre réunion. Ce sont les images qui sont véhiculées quotidiennement en raison de l'actualité brûlante dans toutes les sociétés musulmanes, ou la plupart d'entre elles. Ce sont les images véhiculées par les médias, vous le savez, à chaque bulletin d'information presque. Nous avons un lot de nouvelles relatives à des pays musulmans. L'Algérie, le Liban, l'Iran, la Syrie, le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Il y a donc là un courant à remonter, des réalités à redresser, d'abord dans la perception courante que l'on a de ce que l'on nomme l'islam. Et ceci aussi demande un très grand effort. D'autre part, lorsqu'on prend la parole sur l'islam, bien sûr, tous les musulmans sont à l'écoute. On ne peut nulle part dans le monde prendre la parole sur l'islam sans que les musulmans soient à l'écoute de ce qui se dit. Et cette écoute est extrêmement importante, justement parce que l'islam, de son côté, face à l'Occident se sent menacé, se sent dominé et a tendance par conséquent à réagir en face de l'Occident en recherchant en lui-même, dans ses ressources, dans sa tradition, des points d'appui, des points de résistance. C'est comme cela qu'il faut interpréter ce que l'on décrit très couramment comme l'islam fondamentaliste ou l'islamisme radical. Je prends là des titres qui reviennent souvent dans les ouvrages qui se publient au sujet de l'islam. Et il faut tenir compte de cette écoute donc et de cette attente. Et vous voyez que pour répondre à cette attente, on est obligé d'avoir une stratégie différente de celle que requiert une explication de la situation de l'islam et de la tradition de l'islam à des occidentaux. Voilà les difficultés que je trouve devant moi lorsque j'essaye de réfléchir, car il s'agit de réfléchir essentiellement sur la contribution de l'islam à la réalisation des droits de l'homme aujourd'hui. L'exercice auquel s'attendent immédiatement les musulmans pour répondre à cette question, c'est évidemment de montrer que le Coran, parole de Dieu, apporte tous les éclaircissements et apporte tous les enseignements qui permettent de réaliser les droits de l'homme. Et pour en avoir une preuve, je voudrais rappeler qu'ici même, dans cette maison à l'UNESCO, en septembre, le 19 septembre exactement, 1981, une association musulmane établie à Londres a proclamé ici ce qu'elle a appelé la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme. C'est le titre officiel de cette déclaration. Ce texte a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister. Il faut le mentionner. C'est en effet la première fois que des musulmans, je dis des musulmans, comme nous avons dit hier, il faut attendre l'approbation de cette déclaration par l'ensemble de l'Oumma, par l'ensemble des musulmans, ce qui n'est pas encore fait. Mais, encore une fois, c'est une initiative tout de même musulmane qui mérite d'être mentionnée à l'occasion de tout examen de la contribution de l'islam aux droits de l'homme. Et il est intéressant de vous montrer comment cette déclaration aborde la question des droits de l'homme. Je vais vous lire un passage de l'introduction écrite par le secrétaire de cette association qui s'appelle Salem Azam, et où on lit ceci. L'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Les droits de l'homme dans l'islam sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu et Dieu seul est l'auteur de la loi et la source de tous les droits de l'homme. Étant donné cette origine divine, aucun dirigeant, ni gouvernement, aucune assemblée, ni autorité ne peut restreindre, abroger, ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. J'arrête là la citation et vous voyez à quel point elle définit de façon très, très nette, très claire, une position qui, effectivement, est orthodoxe du point de vue de la tradition musulmane. Le Coran est parole de Dieu, la législation n'appartient qu'à Dieu, et les musulmans, dans la période classique de l'islam, c'est-à-dire du 1er au 5e siècle de l'Égypte, ont établi une science que l'on appelle les sources fondements du droit. Usul al-fiqh, les sources fondements du droit. Et cette science est centrale dans l'élaboration de ce qu'on appelle le droit musulman. Il faut vous en dire un mot pour que vous compreniez justement comment se pose le problème à la fois théologiquement, historiquement, car il s'agit d'histoire, et bien entendu juridiquement. De quel type de droit s'agit-il ? La science des sources fondements du droit essaye d'établir une méthodologie pour lire les textes coraniques et en déduire, en faire sortir, c'est le mot arabe qui est utilisé, istinbat, istikhraj, faire sortir, tirer des textes coraniques par des procédures d'analyse exégétique appropriées et définie avec soin toutes les qualifications légales qui vont définir ce que l'on appelle la charia, la loi religieuse, avec un L majuscule, et qui correspond donc au droit musulman. Et vous voyez qu'il s'agit d'une stratégie exégétique pour conférer au droit, justement, une signification essentiellement liée à ce qui est reçu par les musulmans comme la parole de Dieu, et je pense qu'ici, nous sommes dans le même terrain que ce que la pensée chrétienne a fait lorsqu'elle a élaboré le droit canon. Et le droit musulman ainsi sacralisé par ces procédures de définition de la loi va s'imposer au cours de l'histoire à l'ensemble des sociétés musulmanes partout où il y a un gouvernement qui se réclame de l'islam, jusqu'à nos jours, vous savez que les musulmans, dans un certain nombre de pays, ou bien appliquent cette loi-là, comme en Arabie Saoudite, voilà pourquoi l'Arabie Saoudite prend les positions que vous savez chaque fois qu'il est question d'apporter une modification quelconque ou de prendre une position quelconque au sujet de la législation, ou bien dans d'autres pays, comme le Soudan, comme le Pakistan, on veut appliquer cette loi musulmane aujourd'hui pour ne pas laisser place à un droit d'origine humaine. Voilà en gros la position musulmane au sujet de la construction des droits de l'homme et de la définition des droits de l'homme. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là parce que depuis les années 50, il y a eu les mouvements de libération de tous les peuples qui, jusque-là, avaient été sous domination coloniale. Et ces mouvements de libération ont amené la construction, l'émergence d'États. D'États qui, très souvent, à quelques exceptions près, n'ont pas d'antécédents, beaucoup d'antécédents historiques. Ces États-là ont essayé de se constituer en référence à une idée de la nation qui vient de l'Occident, de ces mouvements nationalistes qui ont existé en Occident au XIXe siècle, et donc ils ont eu pour objectif l'unification de la nation, et ils ont également émergé dans un contexte où la notion de démocratie a influencé ces États, car ces États ont eu pour souci aussi de se donner au moins des formes démocratiques modernes, et ils sont ainsi amenés à adopter un certain nombre de dispositions juridiques, à introduire des codes juridiques qui ne sont pas nécessairement liés à ce que nous trouvons dans le droit musulman. Il va donc y avoir là un conflit ou des tensions entre des codes empruntés à l'Occident le code suisse ou le code français, et l'existence toujours de la loi musulmane qui doit continuer à être appliquée. Et cette tension se manifeste tout particulièrement dans un domaine que l'on appelle en droit musulman le statut personnel, c'est-à-dire tout ce qui relève du droit privé, du droit de la famille en particulier, et donc du statut de la femme et de l'homme dans toutes les relations pour le mariage, pour l'héritage, pour la filiation, etc. En effet, cette partie-là est légiférée d'une manière stricte en relation avec des versets coraniques, donc des dispositions qui existent dans le Coran même et auxquelles aucun musulman ne peut toucher. Voilà pourquoi, quelle que soit la volonté de modernisation du droit des différents États musulmans qui ont surgi donc après la Deuxième Guerre mondiale, ce point-là reste un point de résistance non touché, et partout, effectivement, le droit privé continue à fonctionner selon les dispositions de la charia, c'est-à-dire du droit musulman classique, tel qu'il a été établi selon la méthodologie des usul al-fiqh, des sources fondements que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et vous savez toutes les difficultés que cela soulève. Et là aussi, vous savez que chaque fois que l'on parle de l'islam en Occident, la question première qui vient immédiatement dans toutes les bouches, qu'en est-il de la femme aujourd'hui ? Qu'en est-il du statut de la femme et des droits de la femme aujourd'hui ? C'est un point qui, effectivement, préoccupe l'ensemble des musulmans, et si j'en avais le temps, j'aurais pu vous lire un certain nombre d'articles de la déclaration que j'ai mentionnée tout à l'heure pour vous montrer comment cette déclaration essaye de traiter ce problème particulier. Mais cela nous entraînerait trop loin. J'aimerais examiner avec vous le problème que pose la construction du droit musulman et la construction du droit religieux dans les religions du livre d'une façon générale. Parce qu'il me semble qu'une réflexion commune peut être engagée sur ce plan-là, et il faut intéresser non seulement l'islam, mais également mettre dans le coup, si je puis dire, les autres religions. Parce que il me semble injuste aujourd'hui de présenter l'islam comme ayant une position absolument à part et différente de ce que l'on trouve dans le christianisme et dans le judaïsme. Le problème est un problème d'exégèse, avant d'être même un problème de théologie, puisque la théologie elle-même, pour être construite, et par voie de conséquence le droit, dans les religions du livre, commence par l'exégèse. Et effectivement, les traités de usul al-fiqh, de cette science que j'ai mentionnée, tous les traités de usul al-fiqh commencent par une introduction linguistique. Quels sont les problèmes proprement linguistiques que le juriste doit maîtriser pour lire le Coran selon les règles grammaticales, selon les règles de la lexicologie arabe, puisque le Coran est en arabe, pour faire un travail correct d'exégèse et donc d'énonciation du droit. Ce problème d'exégèse a été accompli en islam, comme en chrétienté, pendant le Moyen-Âge, c'est-à-dire la période classique de l'islam, du 1er au 5e siècle de l'Égypte. Et il a été accompli avec, si je puis dire, la linguistique de ce temps-là et avec la rhétorique de ce temps-là. Je dis bien la rhétorique, car le discours religieux, aussi bien biblique qu'évangélique que coranique, est un discours, comme vous le savez, qui utilise la métaphore, qui utilise le symbole. C'est un discours, comme nous disons aujourd'hui, de structure mythique. Et aborder ce discours de structure mythique avec la rhétorique d'Aristote, avec la définition de la métaphore qui vient d'Aristote, et les Arabes ont connu, comme vous le savez, toute la rhétorique d'Aristote, comme les médiévaux latins. Ils ont travaillé dans une même sphère culturelle et ils ont utilisé les mêmes procédures intellectuelles pour faire ce travail d'exégèse. Voilà pourquoi il faut insister historiquement sur la situation herméneutique commune aux trois religions du livre. Et ici, il faut lever une difficulté que soulèvent les théologiens chrétiens. Lorsque l'on parle de religion du livre, les chrétiens, et surtout les catholiques, refusent cette appellation en disant « Non, le catholicisme n'est pas une religion du livre. Le catholicisme, c'est la religion révélée en Jésus-Christ. » Je pense que ce problème théologique n'a pas à être discuté tant que l'on se tient au niveau de l'exégèse, puisque la personne du Christ et ce que le Christ a enseigné n'est connu aux chrétiens qu'à travers un texte, qu'à travers les récits évangéliques. Et les chrétiens se trouvent donc, du point de vue de l'exégèse, indépendamment encore une fois des interprétations et des constructions théologiques, se trouvent devant exactement la même situation que les musulmans pour qui c'est le livre, le Coran, qui est la source fondamentale et le point de départ, et le Coran c'est un texte. Le Coran est un texte. Nous sommes donc confrontés à un problème qui aujourd'hui se révèle dans des dimensions extrêmement complexes grâce à l'intervention de la linguistique actuelle. La linguistique actuelle a modifié les conditions de lecture de tout texte, et en particulier du texte religieux. En particulier du texte religieux parce que, pour le texte religieux, il n'y a pas que la linguistique qui modifie les conditions d'intelligibilité d'un texte religieux, il y a aussi l'anthropologie qui modifie les conditions d'intelligibilité d'un texte religieux. Pourquoi ? Parce que l'anthropologie nous impose, et ceci s'est passé depuis peu de temps, et je dirais même que dans la recherche universitaire, vous le savez, l'anthropologie n'est pas si diffusée que cela, et elle n'est pas si enseignée que cela, même dans les universités occidentales. En tout cas, l'attitude de la raison vis-à-vis du mythe et vis-à-vis de la connaissance mythique a été longtemps une attitude positiviste qui consiste à rejeter le mythe dans le domaine de la légende, dans le domaine des récits populaires, dans le domaine des fabrications de l'imagination. Et le mythe a été associé tout au long du 19e siècle et jusqu'aux années 50 à la culture des civilisations attardées, des sociétés non développées. Et vous savez comment l'Occident a regardé ces sociétés-là en relation précisément avec le phénomène de la domination coloniale et de la justification de cette domination par une raison positiviste triomphante, vivant sur une théorie des cultures et une théorie de la connaissance mythique qui, reléguée dans le primitivisme et dans l'attardé, intellectuellement parlant, toutes ces cultures et par conséquent le texte religieux lui-même. Ceci est un moment important de la connaissance. Voilà pourquoi, comme vous le voyez, la question épistémologique me semble absolument centrale et me semble une clé pour réfléchir sur la contribution des religions aux droits de l'homme aujourd'hui. Et je vais tout à l'heure exposer l'autre face des droits de l'homme, la face qui nous vient de la Constitution américaine, de la Révolution anglaise et de la Révolution française. Ça, c'est l'autre face qu'il va falloir examiner. Et qu'il va falloir examiner après avoir réhabilité, car il faut réhabiliter la vocation des textes religieux à nous apporter un type de connaissance qui ne saurait être relégué dans le désuet, dans le médiéval, dans le primitif, dans le légendaire, etc. Car c'est ce qui s'est passé. Revenir par conséquent aux textes religieux armés des méthodologies et des problématiques nouvelles de l'exégèse va permettre d'avoir vis-à-vis du droit canon, de la loi mosaïque juive et de la charia un regard différent, un regard intellectuel différent. J'espère que vous me donnerez l'occasion de revenir sur un certain nombre de points que j'ai abordés et je voudrais surtout que nous essayions de réfléchir ensemble sur cette nécessité de reprendre ensemble et non pas en rang dispersé des problèmes qui nous concernent fondamentalement tous et qui nous concernent en reprenant toute la perspective historique qui commence avec le phénomène de la révélation et qui se poursuit à travers le phénomène historique de la révolution ou des révolutions que nous sommes en train de vivre. Et ceci nous permettrait de repenser à la fois le phénomène religieux et le phénomène de la laïcité. Je vous remercie pour votre attention.